Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Tommy Godette et vous êtes à Terrain Basique pour une 13e fois. Au son de Castlevania 3 aujourd'hui, mes collaborateurs et moi, on va discuter surtout Graveyard ou Cimetière. D'ailleurs, Maxime Aymon ici, juge niveau 2 de Magic. Salut!
Salut tout le monde!
Ben oui, content de t'avoir avec nous.
Merci
un fan
bien.
De Graveyard aussi?
Ouais, un bon fan de Graveyard, mais encore plus un fan de l'Exil.
Et voilà, on reconnaît le style. Tout est plus blanc que noir.
Ouais.
Il fait signe que oui. On a François Lompré.
Salut les magiciens.
Comment ça se passe de ton bord, toi?
Ça va bien. Les Graveyards, c'est excellent.
Ouais, toi, t'es un gros fan de Graveyard.
Oh, oui, oh, oui.
Et Jason Keys, notre super expert. Très, très gros fan.
Très gros fan pour nos néophytes. Qu'est-ce qu'un graveyard, Tommy?
Ben oui, ben le graveyard ou cimetière, c'est l'endroit où toutes les cartes passent à un moment donné, sauf celles qui sont exilées. Toutes les cartes s'en vont là. C'est la pile là, à côté.
C'est la pile et les créatures qui se font détruire.
Les spells
qui sont castés. Les instants ou les sorceries qui sont castées. Une fois qu'ils ont terminé, on les envoie là.
Les enchantements qui se font détruire aussi. Toutes les permanents détruits s'en vont là. Toutes les spells qui ne servent plus peuvent aller profiter du repos éternel du graveyard. Et Martin, notre technicien, Martin Godette, technicien invité et aussi le chef de production podcast et le gars qui s'occupe du corps et rond, mesdames et messieurs. Martin, tu as un message pour nos auditeurs.
Ben, ça a déjà été, effectivement, bonjour à tous. Oui, vous avez déjà été informé probablement pour des considérations que vous considérez maintenant à satiété du fait qu'il existe de superbes t-shirts à l'effigie de Terrain Basique, donc ne soyez pas gênés, moi je porte...
Il est très beau.
Je porte plusieurs t-shirts à l'effigie des shows de production podcast qui sont tous disponibles sur, évidemment, la boutique en ligne. Allez sur podcast.com, allez sur la page Facebook de Terrain Basique, vous allez tout trouver ça.
Podcast.com, P-O-D-C-A-S-S-E-S.
Non, mais c'est pas grave, c'est okay. Pas loin. T'as okay. Toutes les lettres, juste pas le bon ordre.
Le lien va être en bas de l'émission.
C'est ça, ben le lien va être là, mais c'est P-O-D-C-A-S-S-E. C'est pas
OK, j'ai juste mis un S de trop.
Exact.
Voilà.
Mais non, c'est ça, fait que si ce n'est déjà fait, offrez-les, portez-les, commandez-les.
C'est combien l'unité?
Ah, c'est un énorme et gigantesque... Bon, évidemment que là, on va tomber dans des considérations plus géopolitiques, là, mais c'est 14 US.
D'accord.
Donc, au moment de placer votre commande, je vous suggère xe.com et vous aurez tous les détails de son coût réel.
Merci beaucoup, Martin. Content de t'avoir avec nous. Il est à la console pour cette session d'enregistrement et il y en a beaucoup appris sur Magic. Hein? J'ai entendu dire que t'avais hâte de jouer.
C'est un understatement.
Et voilà, on réussit notre job, les gars. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour commencer l'émission, Magic, il y a plusieurs manières de gagner. Il y a plusieurs types de decks, il y a plusieurs magies. Quels sont vos archétypes de decks préférés?
Ben, si tu veux, je vais commencer. Ben, moi, en fait, c'est selon si je joue en duel ou en multiplayer. En duel, c'est sûr que moi, je suis plus Red Dead Win, qu'on appelle... C'est le deck rouge mono, qu'on joue beaucoup de spells qui coûtent juste un, quelques-uns à deux. Ben, tu as des Lightning Bolts, ces affaires-là, puis tu as aussi des créatures haste.
Faut que tu tues rapidement.
Ouais, c'est ça. Le but, c'est de tuer rapidement. C'est comme un. Voyons, comme un. Glass Cannon, qu'on dit.
Ouais,
aussi,
ouais, c'est pas tuer.
Ça passe ou ça casse.
C'est tu le tues avant le tour 4, sinon c'est fini.
C'est ça.
Ah ouais, hein? Ok.
Puis, sinon, ben, c'est parce que c'est aussi un deck qui coûte pas cher à construire.
Et voilà, c'est le deck des pauvres.
Ouais, mais qui gagne.
Oui.
C'est vrai que le burn rouge, je vois Maxime qui fait beaucoup de signes de la tête. Là.
Ouais. Oui, mais ça coûte quand même un petit peu à jouer. Là, comme,
oui.
Un petit peu à jouer la version, mettons, en moderne avec les Goblin Guide, puis des Fetchland, puis etc. C'est pas donné à monter.
Ben, comparé
ouais,
au
non,
top 8, là.
Ouais. C'est dans les decks les plus abordables.
Ouais, c'est dans les decks les plus abordables.
Moi, c'est aussi pour ça que je joue...
Sinon, en multijoueur, moi, je suis très Golgari.
Ouais.
Le graveyard, c'est très intéressant.
On va en parler aujourd'hui de ça.
Ouais.
Toi, Maxime?
Moi, ça dépend du format. Je joue beaucoup standard et moderne. Donc, en moderne, moi, je suis soit aggro avec le burn qu'on vient de parler, soit combo. J'aime beaucoup les decks qui planifient un tour puis qui gagnent en un tour. Storm est un exemple. Pour nos auditeurs, Storm, c'est un deck qui fait juste caster beaucoup, beaucoup de spells qui fait de la mana pour juste caster des spells. Puis ça finit la game avec un Grape Shot qui est une, un rouge, un
colorless.
C'est une sorcery, ça fait un damage, mais ça a la capacité de se copier pour chaque sort qu'on a casté avant Grape Shot.
Ça, c'est l'effet Storm.
C'est l'effet
souvent,
Storm.
Souvent, ça revient le Storm Count.
Ça
veut dire, là, tu comptes, mettons, on a fait 3 spells là, dans
4,
le tour.
5,
et tu nous as appris dans une autre émission que là, un Storm peut pas s'encourager lui-même.
Non, c'est ça. Les copies sont pas castées, donc ça compte pas dans le Storm
Count. Ça ne compte pas sur le Storm Cost. Ça me semble pas comme c'était joué avant, mais ça a l'air plus logique de même. Genre, parce que moi, j'ai déjà joué à une game contre un deck Storm, que finalement les Storms encourageaient les Storms, fait que ça devenait exponentiel, fait que à un moment donné, j'ai dit prendons un autre deck la prochaine game.
Puis en standard, je joue sur le Signa Token qui est mid-range. J'aime beaucoup plus jouer mid-range en standard. Je trouve que c'est un format qui est plus riche en ce moment.
Là, tu as utilisé 3 mots qui reviennent souvent. On a parlé de aggro, mid-range et combo. Peut-être résumer vite fait chacune
aggro,
de ces 3 familles-là.
Je vais même en rajouter une 4e. Aggro, c'est un deck comme Burn, comme le deck qu'on a parlé avant, le Red Deck Win. C'est agressif, on veut gagner la game le plus vite possible. Un deck aggro, ça gagne la game sur turn 4 ou ça commence à perdre la game sur turn 5. Midrange, c'est un deck qui va aller jouer un petit peu plus haut sur la courbe et qui va vouloir faire des choses plus dans la partie. Partie moyenne de la game, ce qu'on appelle le mid-game. Puis c'est un deck qui va normalement être un peu plus puissant versus les decks aggro parce qu'il va être capable de les ralentir et en allant over the top après. Mais il va perdre contre les decks control, qui est l'autre famille que je veux rajouter. Les decks control, ça veut jouer dans le late game. C'est le genre de deck en moderne, exemple le blue-white control qui est très très populaire en moderne. C'est le genre de deck qui va faire turn 17, je mets ma première menace.
Ah, c'est gluant ça.
Puis les decks combo, les decks combo, c'est des decks qui vont essayer de chercher à set up une synergie ou un tour pour à peu près gagner là. On va en parler tantôt avec
c'est ça, c'est
avec
ton,
Jason.
Ton affaire de deck de count là, de deck de storm, voilà.
Deck combo.
Jason, tes decks préférés?
Moi je suis comme François là, je veux pas trop mettre d'argent. Je joue beaucoup standard, là, fait que je vais beaucoup jouer. L'automne passé, j'avais joué beaucoup le mono bleu que j'avais parlé dans l'épisode 1. Et sinon, le reste du temps, là, je vais aller rouge aggro ou blanc et rouge aggro.
C'est fort ça, blanc rouge.
Ouais,
ça...
mais mon point, c'est ça. Je vais rarement jouer contrôle en compétitif, mais sinon, pour le fun autour de la table, je vais essayer des decks. T'sais, j'aime beaucoup, justement, c'est le thème d'aujourd'hui, là, des decks qui jouent dans le graveyard.
On va revenir là-dessus. Hein. Est-ce que c'est plus compliqué jouer contrôle que jouer aggro?
C'est pas
le même genre de calcul?
Ça demande plus de patience. Pis, si tu joues un deck de counterspell, faut que tu sais un peu qu'est-ce que l'autre va jouer pour savoir.
Faut que tu ailles le faux show au bon moment. Là, counterspell pas son gros monstre 7-7 parce que c'est son spell qui va sortir après.
Qui va faire la différence. Ça demande plus de brain, je pense. Peut-être que Maxime pourrait.
Tous les decks de Magic demandent du brain, puis même des fois, burn, on rit beaucoup.
C'est plus compliqué qu'on pense.
On rit beaucoup de burn, mais la grosse affaire à apprendre avec burn, c'est comment timer ses spells et quand les casser. C'est ça la grosse partie. Jouer contrôle demande une plus grande connaissance du format dans lequel on joue en général.
Ouais.
Parce qu'il faut connaître son deck, c'est passé. Il faut aussi connaître le deck de son adversaire. Puis c'est là que des fois, on a des joueurs qui amènent des brews qu'on appelle ou des choses pas exactement méta. Puis là, quand tu t'assois contre ça, puis ton opponent.
Des surprises.
Ouais, des grosses surprises. Puis là, tu fais comme bon, ben comment est-ce que je joue contre ça? Je sais pas ce qu'il peut me jouer.
Et voilà, c'est un petit peu la magie de Magic, hein,
ouais.
Le fait qu'on voit pas le jeu de l'autre. Il y a toute la manière de bluffer, il y a toute la manière de faire accraire des affaires. Il y a même du monde qui disent des choses. Tu nous avais parlé de la légende du gars « You want me to go through it » là. Et,
Il y avait un seul Drain Life. Il y avait un combo qui faisait Drain Life, c'est un sorcery, un colorless, un noir. Tu tapes un nombre de mana noir, ça va enlever des points de vie à l'autre, puis t'en gagnes. Puis il y avait juste un il a montré qu'il y avait, je pense que c'était un Drain Life dans sa main, mais il pouvait pas encore faire son combo, mais sauf que l'adversaire, il avait goûté le tour d'avant. Puis il a réussi, ça c'est en Pro Tour, là, en 97, il a réussi à y faire croire qu'il était capable de le faire. Puis il a dit, bon, ben, je le fais-tu mon combo ou t'as compris que la game est terminée? Puis l'autre a fait comme, ouais, est-ce que là, t'as gagné? Mais en réalité,
il a bluffé bien raide.
Il a bluffé bien raide parce qu'il n'y avait pas pantoute.
L'autre aurait dû répondre, oui, fais-le, qu'on finisse ça normalement.
Quand quelqu'un vous dit, je vais faire mon combo, là. Des fois, ça vaut la peine de passer.
Le magic diplomatique.
J'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a un de mes amis qui jouait Ad Nauseam en moderne. Ad Nauseam, c'est une carte. En gros, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de mettre de piger une carte pour un point de vie. C'est un sorcery. Puis, comment combo marche, c'est que tu joues Angel's Grace avant qui fait que tu peux pas perdre la game ce tour-ci. Après ça, tu joues Ad Nauseam, qui tu piges ton deck au complet.
Oui.
Puis après ça, tu joues Chain Lightning, mais... Ah, je me rappelle plus de la carte, mais c'est une carte rouge qui fait du dommage, puis tu peux discarter des lands de ta main pour augmenter le dommage. Puis ou changer le target spell. Il joue Angel's Grace, après ça, il joue Ad Nauseam, il est comme, est-ce que j'ai besoin de faire le combo?
De continuer, ouais.
Le monde, ils disent, habituellement, ils disaient non, c'est correct, je comprends comment le deck marche. Puis au sideboard, il sideboardait toutes ses cartes rouges qui fait du dommage. Il était plus dans le deck, puis game 2, game 3, il jouait, il faisait Angel's Grace, Ad Nauseam, puis habituellement, le monde...
Il avait pas son win condition.
Il avait pas son win condition partout dans son deck.
Ne laissez-vous jamais inspirer par la déception.
C'est ratoureux.
C'est un mind game, Magic.
Ça
joue en dessous de la ceinture.
Sinon, moi, je suis un gros fan de Noir-Rouge, puis je dirais que la carte de la semaine qui s'en vient, dans le fond, les créateurs, le Animate Dead, c'est une de mes premières cartes qui est vraiment sortie du lot, je dirais, avec le Prodigal Sorcerer, puis le premier Nicole Bola, 7-7 Flying. Le Prodigal, lui, c'est un magicien 1-1, 2 colorless, un bleu, tu le tapes pour faire un dommage où tu veux. Moi, j'ai tout de suite beaucoup aimé ça parce que ça te permettait d'agir n'importe quand, de jouer beaucoup dans le tour des autres. Et Magic, pour moi, qui avait déjà joué à beaucoup de jeux de cartes avant, ça a été le premier qui me permettait de jouer dans le tour des autres. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose que je voulais développer plus. Et voilà, avec le temps, gros fan d'Instant de deck bleu-rouge, mais... voilà, moi c'est sûr que c'est Graveyard de réanimateur, de ramener les gros monstres, mon deck de Dragon Mage dans le temps, puis blablabla. Voilà, je pense que ça nous amène à la carte de la semaine.
La carte de la semaine.
Merci messieurs, on va écouter Bone. Hey, la carte de la semaine, Animate Dead, je suis très content de finalement pouvoir en parler.
C'est une carte de la semaine nostalgique.
Hein? Oui, vraiment.
Beaucoup trop de texte, par exemple, cette carte-là.
C'est ça, c'est simplement de ramener un monstre en jeu, un Ancient Creature, que tu ramènes un monstre en jeu, et le monstre de n'importe quel graveyard est -1/0, ça veut dire qu'il est un petit peu moins fort, il devient zombie, il est plus sluggish, plus lent. Mais c'est le wording de la carte qui est assez particulière. Je veux pas tout le traduire, fait que tiens, je vais... c'est un paragraphe. « When you play Animate Dead, choose target creature card in any graveyard. When Animate Dead comes into play, put that creature into play and Animate Dead becomes a creature enchantment that targets the creature. Enchanted creature gets -1/0 if Animated Dead leaves play, bury the creature. Hein? » Tout ça pour bypasser le « peut targeter une créature dans un graveyard. »
Ouais, c'est les anciens...
L'ancien wording.
L'ancien wording de ma vie.
Vive l'oracle.
Oui, ils ont beaucoup aminci ça depuis.
Oui, mais moi, je pense en fait que le Magic sur Internet, sur le Magic Arena, Magic Online, ces affaires-là, c'est sûr et certain que ça a été une des meilleures affaires pour réussir à comme affiner le wording des patentes. Parce que là, tu peux faire jouer deux robots un contre l'autre. Fait que ouais. dès qu'il y en a un qui jamme, ben là tu vas checker puis tu dis ah bon ben il y a une condition qui a pas été respectée. C'est très mathématique au final là. Et moi je trouve ça beau justement de tout ça. Ça a été à l'époque que je trouve ce que j'ai le préféré du Magic Online. J'ai jamais embarqué là-dedans parce que moi ce que j'aime c'est jouer avec du monde autour de la table puis de faire des pins sur la mer de l'un puis des affaires de même là. Mais le Magic Online, ça l'a réellement aidé à affiner le wording. Là, je pense que c'est à partir de là que ça a commencé à s'appeler moderne, tranquillement aussi.
On parle du format moderne ou tu parles de juste
Magic moderne?
Le Magic moderne a commencé à peu près dans les années 2005 à 2007, quand on a commencé à aller sur Ravnica avec le premier Ravnica, le premier Innistrad, le premier Zendikar. C'est vraiment là où on a commencé à avoir le plus... Le Magic moderne.
C'était pas avec Mirodin, ça?
Ben, on peut y aller, on peut remonter jusqu'à Mirodin. Je veux dire, le format...
C'est que le format commence à Mirodin.
Le format, il commence à la 8e édition.
Fait que c'est, ouais, c'est vrai, ça.
Ouais, c'est qu'il y a juste...
Mais mon point, c'est que le format a été comme... Le format va plus loin que la date qui a été créée. Je sais pas comment je veux dire. Tu sais, c'est pas... Ils ont pas comme créé le format moderne, puis ils ont dit, c'est les cartes à partir de maintenant.
OK.
Ils ont créé le format moderne dans les années qui dit, puis là, ils ont dit, ça va commencer à la 8e édition. Parce que là, qu'il y avait eu beaucoup de changements de règles.
Ouais. Et voilà. Ben, ça termine la carte de la semaine, on s'en va vers le sujet. Hey, on est content cette semaine, on vient de parler des types de decks qu'on préfère, et puis je pense que Jason, François et moi, on va être très contents. On parle de Graveyard, t'as appelé ça le Graveyard de Noël.
Oui, parce que je me suis dit, l'idée de base, c'était de faire une émission spéciale pour Noël, mais le mot est finalement, c'est peut-être pas ça qui a eu lieu, là, mais ça aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est une rétrospective de comment les decks de Graveyard ont évolué, puis que ça a été des bonnes stratégies à chaque fois. Notamment, parce que je me suis rendu compte, en fait, c'est depuis la sortie de Guilds of Ravnica, les Graveyards, à nouveau, autant en standard qu'en moderne, c'est redevenu le top.
OK.
Puis, ce que je propose, c'est une petite rétrospective là, pour voir qu'est-ce qu'il y en est, de où ça vient. Donc, si on recule, il y a 25 ans, dans Alpha, bien sûr, les premières, ce qui a c'était un peu, en fait, c'est devenu la référence pour tout ce qui est suivi après. C'est-à-dire que dans le noir, te permet d'aller chercher des cartes dans le graveyard, mais aussi le vert dans une certaine mesure.
Ouais.
Donc, Animate Dead, qu'on a déjà parlé, la carte de la semaine, mais aussi Raise Dead, qui était un sorcery, retourne une créature du graveyard vers ta main. Et Regrowth, qui était un colorless, un vert, retourner n'importe quelle carte de ton graveyard vers la main. Et aussi, il y avait ça a été enlevé depuis, mais c'était Resurrection, deux colorless, deux blancs. Prenez une créature dans votre graveyard et placez-la directement en jeu. Tu ne peux cependant pas la jouer tout de suite.
Summoning Sickness.
Ça a été enlevé de blanc depuis, dans une certaine mesure. Là, on le voit rarement maintenant.
Bon, il y a encore pas mal de ramenés, mais souvent c'est blanc-noir, par contre.
Ouais.
Puis habituellement, le blanc qui va ramener, si on pense, mettons, à Rally the Ancestors, qui était...
Ouais.
Habituellement, ça va être ramené pour une duration, genre jusqu'à la fin du tour.
Ça va être généralement avec beaucoup de conditions. C'est surtout le noir et le vert qui fouillent dans le graveyard et principalement le noir. J'ai dit noir et vert, j'ai bien dit. Oui. Et donc ça l'a mené. Par contre, l'Antiquities a défini une autre couleur qui pouvait jouer dans le graveyard, mais seulement pour les artefacts, les instants et les sorceries. Dans Antiquities, c'était la guerre des frères. Donc tu avais comme Reconstruction bleu, un mana bleu. Ou Drafna Restoration, que je recommande de jouer en Commander dans des decks d'artefacts. C'est prenez n'importe quel nombre d'artefacts dans d'un graveyard de votre choix, puis placez-les sur le top de la librairie prix. Donc, dans ton graveyard, tu vas chercher des artefacts, puis tu peux les piger.
Tu peux décider ce que l'adversaire pige, ouais, tu l'as millé assez décider. Après ça.
Puis, ils ont amené aussi une nouveauté, c'était comme par exemple Ashnod Altar, qui était tu sacrifies des créatures pour créer du mana. Ça permet de faire des beaux loops avec le graveyard. Dans le fond, tu sais, tu vas sacrifier tes créatures en jeu, tu vas les envoyer dans le graveyard, ça va faire du mana. Puis ensuite, avec des cartes qui vont chercher dans le graveyard, tu vas les ramener en jeu.
KCI, en moderne.
Oui, exactement. Explique-nous-le pour les auditeurs.
Pour les auditeurs, KCI, c'est une carte, je suis jamais capable de la nommer, c'est Crux Clan Ironwork ou quelque chose dans cette patente-là. C'est un artefact qui coûte 4 mana colorless à jouer. Et ça a une seule habilité. Sacrifier un artefact, ça fait 2 mana colorless.
Oui.
Puis il y a un deck très connu maintenant en moderne avec cette carte-là qui va jouer Mirror Retriever, qui est une créature artefact qui permet quand Mirror Retriever meurt, ça permet d'aller rechercher un... un artefact dans le graveyard et de le ramener à la main. Et ça joue aussi Scrap Trawler, qui est un autre créature artefact, qui que quand lui ou un autre artefact meurt, ça permet d'aller chercher un artefact de Converted Mana Cost de 1 de moins.
Ouf.
Donc, ça fait des beaux loops, et ça permet de faire une loop qui est pratiquement infinie pour faire de la mana, piger son deck au complet. Puis ça finit avec une seule et unique Pyrite Spellbomb, qui est un artefact qui peut se sacrifier pour faire 1 de dommage. Et t'es capable de la louper à l'infini, puis tu tues à coup de
Tu peux mettre Walking Ballista aussi, j'imagine.
Ouais, mais il joue pas Walking Ballista. Ça fait juste... Tu peux le mettre, mais il joue pas Walking Ballista parce que ça dilue le deck. Ça dilue
Walking Ballista, en passant, ça coûte XX.
Ouais.
Il y a Power X. Et tu peux aussi, je pense, sacrifier chaque... c'est ça, les X.
Ça crée un nombre de counters +1/+1 selon le nombre de mana que tu as tapé.
Puis tu peux en sacrifier des counters pour faire du direct d'un dégât à chaque fois.
Ouais, c'est fort. C'est du direct damage d'artefacts colorless. Là,
donc c'est Antiquities qui a recommencé.
Oui,
cette,
on retourne
l'idée
là-dessus.
De sacrifier des créatures. Fallen Empire dans le vert avait Night Soul qui était un enchantement, 2 verts. Tu enlèves 2 créatures d'un graveyard pour créer des tokens. C'est une mécanique qu'on a revue aussi après dans Magic. C'est-à-dire que tu peux t'enlèves des cartes dans le graveyard pour créer de la valeur sur le terrain. Finalement, c'est seulement à Mirage qu'on a commencé à avoir des... le Mirage et Weatherlight ont commencé en fait à sortir... C'est utiliser le graveyard, mais d'une autre façon que juste comme sacrifier des créatures. Comme par exemple, je vais prendre Buried Alive, 2 colorless, 1 noir, Sorcery. Tu cherches dans ta librairie pour 3 créatures, puis tu les mets direct dans le graveyard. Donc ça, c'était une façon justement là, d'accélérer le,
ouais,
que tu as beaucoup de cadavres. Puis Shattered Crypt, qui était très fort à l'époque quand ça l'avait sorti. Il y avait beaucoup de decks qui étaient avec ça. C'est 2 noirs, X colorless, un Sorcery. Tu retournes X target creature from your graveyard to your end, mais tu perds un nombre
X-V.
De vie égal.
Fait qu'il y a plein de monstres, c'est.
Puis t'avais Strain of Night qui était 2 colorless, 2 noirs. Tu payes 2 noirs, 2 points de vie, tu sacrifies un swamp pour ramener une créature de ton graveyard direct en jeu.
C'est quand même pas pire,
ça.
Il y en a une que lui, Forbidden Crypt,
oui,
c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé.
Ça, c'était funky, c'est un enchantement 3 colorless, 2 noirs. Pour chaque carte que tu vas piger dans ton tour, tu peux à la place les prendre dans ton graveyard. T'es mis dans ta main. Cependant, chaque fois qu'une carte va dans le graveyard, faut que tu la remove from the game. Ça, c'est dans le fond, tu l'as joué après que t'avais bien rempli ton graveyard.
C'est
ça. Ça transformait ton graveyard en ta main. Ou Tombstone Stairwell, 2 colorless, 2 noirs. Cependant, il y avait un cumulative upkeep de 2. Donc, à chaque tour, elle te coûtait de plus en plus cher à entretenir. C'était un Ancient World. Ça, c'est jouer ça en Commander, c'est vraiment le fun. Dans le fond, c'est que tu exiles des créatures dans ton graveyard, puis tu crées un nombre de zombies égal au nombre de counters qu'il y a sur le Tombstone Stairwell. Mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque tour, tu rajoutes un Tombstone, une pierre tombale, dans le fond, sur ton Ancient World. Fait qu'à chaque tour, ça crée de plus en plus de zombies. Il y a de la carte Liliana de Last Hope à recréer ça, une Planeswalker sortie dans Eldritch Moon.
Ça, on aime ça aussi.
Donc, c'est Mirage.
T'as-tu mis un Living End aussi là-dedans?
Ça va venir plus tard, tu vas voir. J'y vais par. Dans Tempest, si vous voulez faire un peu d'abus en Commander.
Réanimate, ça, c'est le fun.
Volrath Stronghold, c'est un land un qui crée du colorless mana, mais tu peux taper 2 puis prendre une carte dans ton graveyard et la mettre directement sur ta librairie. Sinon, très fort, qui vaut quand même pas pire cher, Reanimate, un sorcery pour 1 noir, prendre n'importe quelle créature dans n'importe quel graveyard, puis tu la mets en jeu, sauf que tu perds son casting cost
en life. Hey, mais juste un noir, là,
c'est vraiment très fort.
C'est très, très fort. Et un que j'aime bien aussi jouer en Commander, c'est Tortured Existence. C'est un enchantement qui coûte 1 noir. Tu peux taper 1 noir, tu choisis et discartes une créature dans ta main, puis tu retournes une créature dans ton graveyard directement dans ta main. Ça permet beaucoup là, de... Tu sais, dans le fond, au début de la game, t'es pas capable de caster ta grosse créature. Tu l'envoies dans le graveyard, tu ramènes ta petite créature qui a été castée rapidement, qui avait déjà été tuée. Tu la mets dans ta main. Puis là, éventuellement, tu sais, quand t'as assez de mana, ben là, tu fais l'inverse. Tu vas chercher ta grosse créature. Mmh. Ça permet de faire des cycles vraiment intéressants. ensuite, on tombe dans le Urza Saga, qui a vraiment... À l'époque, ils appellent ça le... Quand Urza Saga est sorti, c'était le Combo Winter. C'était probablement un des moments dans Magic, corrige-moi si je me trompe, Maxime, où il y a eu le plus de cartes bannies avec...
Ouais,
ça a été très difficile, ce moment-là.
C'était un set qui était très débalancé. Il y avait notamment la mécanique Cycle, toutes les cartes dans toutes les couleurs avaient Cycle. Ben, pas toutes les cartes, là, mais je veux dire, c'était présent dans toutes les couleurs. Tu payes deux colorless, tu mets la carte dans le graveyard, t'en piges une autre, fait que ça permettait de remplir ton graveyard. T'avais Unearth, qui était la carte de la semaine d'un de nos vieux épisodes.
Ouais, moi j'aime beaucoup cette carte-là.
Sorcery, un noir, choisis une créature dans ton graveyard d'un casting cost de 3 au moins, tu la mets directement en jeu. Exhum, beaucoup joué en format pauper, je vous la conseille.
C'est super bon, ça.
Un colorless, un noir, Sorcery. Chaque joueur autour de la table se choisit une créature dans son graveyard et la met en jeu.
Mais toi, vu que t'as mis du noir dans ton deck pis tu removes les graveyards des autres, qui c'est qui connaît son shit? C'est toi? Ben c'est moi dans ce cas-là.
Ouais.
C'est ça?
Ce que je pense qui est une carte obligatoire en Commander quand tu joues du noir, Phyrexian Reclamation, un enchantement, un noir. Tu payes deux vies, deux mana, tu retournes une créature de ton graveyard dans ta main. Dans le fond, c'est un bon vieux Raise Dead.
Ouais, c'est bon ça.
Pimpé. Jouer ça en Commander, c'est vraiment bon. Puis, je veux juste la mentionner, c'est une des cartes qui a le plus. Je pense qu'elle est juste en Vintage à Star, qu'on peut. Je veux dire en Legacy qu'on peut la jouer. À moins que.
Ça, tu peux pas. Yawgmoth's Will.
Non, Yawgmoth's Will.
Oh, Yawgmoth's Will. Non, Yawgmoth's Will.
C'est banni partout, hein.
C'est à peu près banni partout.
C'est banni partout. C'est un Sorcery, deux colorless, un noir. Jusqu'à la fin du tour, tu peux jouer les cartes qui sont dans ton graveyard comme s'ils étaient dans ta main. Te rappelles-tu, Maxime, la raison pourquoi cette carte-là était trop abus?
Oui, parce que dans le temps, il y avait un combo dans le noir. C'était basically le Black Storm qu'on l'appelait, ou le Perfect Storm. C'est qu'avec Yawgmoth's Will, tu étais capable de faire des Dark Ritual, Cabal Ritual, qui sont deux cartes noires qui sont capables de générer du mana noir.
Ouais.
Après ça, tu faisais juste monter ton Storm, tu faisais Tendrils of Agony. Après ça, tu refaisais... Ouais. Tu refaisais Yawgmoth's Will,
tu faisais infini
tout.
Mana dans le fond.
Non, ben tu fais assez de mana pour faire tout ça, monter ton Storm Count. Après ça, tu fais Tendrils of Agony, Yawgmoth's Will, tu recastes 2 sur 4.
Ouais, Tendrils of Agony, c'est un spell de Storm justement, mais qui soque un point de vie à chaque fois. Ça coûte 4.
Odyssey a amené deux de mes mécaniques que j'aime beaucoup. Tout joueur de Graveyard aime beaucoup ces mécaniques-là. C'est dans Odyssey qu'est apparue la mécanique Flashback.
Ah oui.
Qui est dans toutes les couleurs, by the way. Flashback, c'est généralement, ça va être des sorceries puis des instants qui ont flashback. Par exemple, je prends l'exemple Ancestral Tribute, 5 colorless, 2 blancs. Tu gagnes 2 vies pour chaque créature dans ton graveyard. Elle a un flashback de 9 colorless, 3 blancs. C'est-à-dire, flashback, c'est tu peux jouer cette carte-là à partir de ton graveyard. Donc, c'est comme si la carte, tu pouvais la jouer 2 fois dans la game. Ou comme on a vu, là, j'avais des mécaniques où on remplissait notre graveyard sans vraiment jouer les cartes, mais après ça, vu qu'ils ont flashback, tu peux les jouer. L'autre mécanique qu'il y avait dans Odyssey, c'était Threshold, qui grossissait le pouvoir d'un spell si tu avais 7 cartes et plus dans ton graveyard. Par exemple, Cabal Ritual, un colorless, un noir, qui dans le fond, c'est un Dark Ritual, ça donne 3 mana noirs, mais alors un Threshold... que si t'as 7 cartes dans ton graveyard, ça va donner à place 5 mana noirs.
C'est super bon.
Puis une autre carte qui permet de remplir le graveyard, très jouée encore aujourd'hui, Entom, un instant pour un noir. Tu cherches dans ta librairie pour une carte, puis tu la mets... une carte. Fait que ça peut être un instant, ça peut être un sorcery.
Dans le fond, tu peux jouer un Dark Ritual, tu joues Entom, puis après ça, Reanimate, puis voilà, un premier tour, t'as ta grosse bébête en jeu.
Mirodin, qui est un set basé sur les artefacts, eux, ils ont vraiment décidé d'aller all-in quand ils ont créé ce set-là.
Ouais, le Crucible of
World. Crucible of World, un artefact qui coûte 3 colorless. Tu peux jouer les lands, les terrains dans ton graveyard comme s'ils étaient dans ta main.
Tellement bon, cette carte-là.
C'est très, très fort.
Moi, j'ai bien aimé la version créature verte, là, quelque chose Remunap.
Oui,
Remunap Excavator.
Ouais, c'est ça. Ça coûte 3, mais ça, c'est une créature.
Ça faisait semblable. T'avais Eternal Witness, qui est beaucoup joué aussi encore nos jours. C'est un humain chaman vert, un colorless, 2 verts. C'est un peu c'est le regrowth qu'on a vu au début de ma chronique. Mis sur une chamane 2-1. Si tu prends une carte dans ton graveyard, tu la mets dans ta main.
C'est bien meilleur que Regrowth, à mon avis.
Ben oui, c'est meilleur parce que ça te laisse une créature.
C'est
en
ça.
Jeu.
Ben, moi, je trouve que c'est moins bon que Regrowth juste parce que ça coûte 3. ça arrive trop tard dans le jeu. Ben, pas trop tard, mais ça arrive plus tard dans le jeu. C'est plus dur de faire, mettons, ça, ramener de quoi, puis de le recasser dessus.
T'as certains pros qui conseillent, comme en Commander, de pas jouer Eternal Witness, mais de jouer Regrowth à la place.
OK.
Puis de jouer Eternal Witness en Moderne ou en Legacy. Ouais.
Ce sera su. Ouais, ah, Immortal Servitude, ça, c'est fort.
Dans Ravnica, ça nous a amené la guilde des Orzhov. C'est la banque de Ravnica, puis quand t'es endetté avec eux, tu dois payer tes intérêts dans la mort, fait qu'ils te réutilisent. Des cartes comme Depthnor Knell, 4 colorless, 3 mana noir ou blanc, c'est des mana hybrides qu'on dit. Au début de ton upkeep, tu peux prendre une créature dans ton graveyard et la mettre en jeu à ton contrôle.
Graveyard.
Donc ça, c'est le fun aussi en Commander. Mais sinon, qui est très joué et qui domine le moderne en ce moment, c'est la mécanique du dredge, les Golgari en vert et noir. Donc, je vais prendre l'exemple ici, Life from the Loam, un colorless, un vert. Si tu retournes 3 laines de ton graveyard directement dans ta main, puis elle a un dredge de 3, c'est-à-dire qu'une fois que Life from the Loam est dans le graveyard, corrige-moi si je me trompe, tu peux prendre 3 cartes sur le top de ton librairie et de la mettre dans ton graveyard et tu ramènes cette carte-là.
Tu te milles de 3, puis à la place d'épiger, tu ramènes ton spell qui te permet de remettre des laines.
On va y revenir tout à l'heure, là, mais dredge, présentement, je suis allé jouer à Modern l'autre jour, puis on dit que là, tout le monde jouait du dredge, là, c'est vraiment redevenu à la mode.
Je vais faire un petit point de règles sur dredge, parce que c'est une des mécaniques qui est les moins connues dans Magic, puis qui nous cause un peu de trouble en tant que judge. Dredge, c'est un replacement effect.
Ouais.
Ce qui veut dire que le replacement effect, c'est une habilité qui n'utilise pas le stack, puis ça remplace le draw. Fait que ça peut remplacer n'importe quel draw, puis tu peux pas répondre au fait que la personne veut dredge. Fait que si tu veux, mettons, exiler la carte qui est dans son graveyard que tu penses qu'il va dredge, il faut que tu le fasses avant qu'il annonce son intention. Parce qu'au moment qu'il annonce son intention de dredger, c'est un replacement effect, ça n'utilise pas le stack, tu ne peux pas répondre.
Oh, ok. Planifié. On arrive au bout, hein, ça va bien.
Dans Time Spiral, sorti en 2008, je crois.
Là, tu peux aller chercher des instants.
Ils ont ramené Flashback, que j'ai parlé tout à l'heure.
Oui.
Donc, t'avais par exemple Ancient Grudge, un colorless, un rouge, Destroy Target Artifact, Flashback Vert pour la ramener.
J'aime ça, ce concept-là, moi aussi, de carte qui est correct mono, mais qui peut après ça être utilisée.
Croiser les couleurs, mais ce qui est surtout connu pour son côté Graveyard dans Time Spiral.
Mm-hmm.
Le bloc de Time Spiral, t'avais je vais commencer par Living Hand, qui est une carte qui n'a pas de casting cost. C'est un suspend de 3 pour 4, c'est-à-dire que là, tu la mets en jeu, puis tu vas seulement la jouer dans 3 tours. Pour 2 colorless et 2 noirs. Et ce que ça fait, c'est que chaque joueur prend son graveyard, le met en jeu, et prend ce qu'il y a en jeu, le met dans son graveyard. Tu fais comme un switch. Ça, c'est très fort dans les decks de Graveyard. Ça joue beaucoup en moderne.
Tu trouves?
Oui.
Okay. C'est dans le deck de Cascade, surtout.
Ouais, exactement.
Ça abuse la mécanique de Cascade pour permettre de bypasser le Suspend 3.
Et ça, tout le monde l'a déjà rencontré une fois dans sa vie, le Tarmogoyf, un colorless, un vert, pour une créature, un Lurgoyf. Ça vient de Ice Age. C'est le Tarmogoyf, son power est égal au nombre de types. Au nombre de cartes de différents types dans un graveyard. Par exemple, un land, un sorcery, un instant, c'est 3 types différents.
Planeswalker, artefact, enchantement.
Je vais vous quizer là-dessus.
Vas-y.
Il y a combien de types possibles? C'est quoi le plus gros Tarmogoyf possible sans être extérieur? Il est gros comme un.
Je dis qu'il est 8-9.
8-9? C'est quoi les 8 types?
Il me semble qu'il y a un tribal là-dedans.
C'est ça, c'est tribal. Tribal est un type que beaucoup de personnes oublient.
Fait que Tarmogoyf, il y a beaucoup de decks qui sont basés autour
fait
de ça.
Fait qu'il peut être 9-10.
Non, 8-9.
Ben parce que les Planeswalkers, ça en avait un.
Land, Sorcery, 2, Instant, 3, Enchantement, 4, Créature, 5, Artifact, 6, Planeswalker, 7, Tribal, 8.
Ok, je pensais qu'il en avait 7 avant les Planeswalkers. Bon, on avance bien.
Le set de Alara sur le plan de Grixis, un plan de nécromancien, nous a ramené la mécanique Unearth. Donc tu avais des créatures qui avaient Unearth, c'est que tu pouvais payer leur coût de Unearth. Par exemple, Fate Stitcher, 3 colorless, un bleu, qui est un zombie que quand tu tapes, ça permet de taper un autre permanent comme un land par exemple. Puis il y a un coût de Unearth de 1 bleu, c'est-à-dire que une fois qu'il est dans ton graveyard, tu payes un bleu, il revient en jeu avec haste, sauf que à la fin du tour, tu le remove from the game.
C'est quand même pas pire.
Ouais, et ça permettait de rejouer des cartes.
Un bleu, puis tu peux leur tu peux taper quelque chose quelque part.
En duel, c'est très jouable.
Le Bloodghast.
Oui, le Bloodghast. Dans Zendikar, on avait le Bloodghast. Très, très, très joué en moderne. C'est un vampire spirit qui coûte 2 noirs pour un 2-1. Il peut pas bloquer. Cependant, il y a Haste tant que tu as moins de 10 vies, ce qui arrive souvent.
Ben, c'est le fun, ça. J'en veux de ça.
Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que tu as un land, parce que dans Zendikar, il y avait la mécanique landfall, chaque fois que tu as un terrain qui rentre en jeu, tu peux prendre ton Bloodghast dans ton graveyard.
Tu peux le ramener.
Et le ramener en jeu.
Il est presque immortel.
Si tu as moins de 10 vies, il peut attaquer tout de suite.
C'est ton adversaire à moins de 10 vies.
Oui, merci. C'est l'adversaire. T'as raison, je l'ai mal lu.
Ah, ben, c'est encore mieux, je trouve.
C'est encore mieux parce que c'est ça. Tu vas le jouer dans un deck rapide.
Parce que c'est lui que tu veux qu'il meure.
Ben oui. Un peu dans le même genre, Pyromancer Ascension, un enchantement rouge, un colorless, un rouge. Chaque fois que tu joues un instant ou un sorcery qui a le même nom qu'un instant ou sorcery qui est dans ton graveyard, tu mets un counter quest sur ton Pyromancer Ascension. Puis, à un moment donné, c'est quand tu casses un instant ou un sorcery, puis que Pyromancer Ascension a deux ou plus counter de quest dessus, tu peux copier ce spell-là et choisir une nouvelle target. Il y a beaucoup de decks en moderne qui sont bâtis autour de Pyromancer Ascension. Est-ce que t'avais un...
Ben, il y a Storm. Le plus gros qui est joué, c'est Storm. Au début, Storm était basé sur Pyromancer Ascension. Puis avec la sortie de Barrel dans Kaladesh, ils se sont éloignés un peu de Pyromancer Ascension, puis ils sont allés plus vers Goblin Electromancer et Barrel pour réduire le coût à place de copier.
Ouais. Oh.
Barrel, c'est qui, donc?
Barrel, c'est une créature bleue légendaire qui réduit de 1 tes instants.
Un bleu, un colorless.
Ouais. Puis quand tu contres un spell, tu peux looter.
Celle-là, c'est pour ceux qui sont créatifs. Out of the Gatewatch, sorti en 2013, qui se passait aussi sur Zendikar. T'avais un Eldrazi, Inverter of Truth, 2 colorless, 2 noirs, flying. Il est colorless. Quand il rentre en jeu, tu exiles toutes tes cartes de ta librairie face cachée, puis tu prends toutes les cartes de ton graveyard, ça devient ton librairie. Donc, ça c'est pour les
concepts en esti.
Impressionner ta future blonde, là.
Ouais, c'est ça.
Marchait très bien avec la mécanique de Ingest Process qu'on appelle.
Ouais.
Parce qu'il y avait des cartes qui faisaient le Ingest, puis il y avait des cartes qui remettaient des cartes de l'exil dans le graveyard.
Dans le graveyard.
Fait que ça permettait de bien filer ça.
Ça permettait de. Ouais, c'était vraiment bon. Après ça.
Faithless Looting, ça c'est fort.
Innistrad, ça c'était vraiment intéressant parce que dans l'histoire de cette set-là, c'était les habitants de Innistrad. Toute leur vie est passée sur, tu veux, ce qui s'appelle le Blessed Sleep, le sommeil béni.
Ouais,
c'est-à-dire
ouais.
que tu reviens pas en mort vivant. Parce que toutes les couleurs dans Innistrad allaient jouer dans le graveyard, notamment avec la mécanique Flashback. La carte mythique pour ça, je veux dire, c'est une carte commune, là, mais la carte la plus connue, c'est Faithless Looting, un sorcery, un rouge.
Ah,
tu
piges
deux cartes,
bien,
tu discardes deux cartes, donc tu grossis ton graveyard.
C'est ça, tu peux le faire en Flashback.
En Flashback, tu la rejoues une deuxième fois. Il y avait la mécanique Undying dans Dark Ascension, qui était le deuxième set.
Vois-tu un miracle, là? Pourquoi qu'on voit
ça? J'y arrive. Strangle Root Ghast, deux verres pour un spirit avec Ace qui a Undying. Undying, c'est que quand la créature elle meurt, si elle n'a pas de counter dessus, tu peux la ramener en jeu avec un counter +1/+1 dessus.
Fait que là, tu t'arranges pour enlever le compteur +1/+1, fait que là, elle revient tout le temps, toutes les fois que tu réussis à.
Ou tu peux juste jouer Solemnity qui fait que la créature peut pas avoir de counter.
Et voilà.
Ouais.
Là, ça fait
Solemnity,
ça fait
j'adore ça.
Prized Amalgam, sorti en 2013, encore sur Innistrad. C'était intéressant. C'est un zombie, un colorless, un bleu, un noir pour un 3-3. Chaque fois qu'une créature rentre en jeu, si elle est entrée à partir de ton graveyard, ou que tu l'as castée à partir de ton graveyard, par exemple, avec du Undying, tu retournes Prized Amalgam de ton graveyard directement en jeu, sauf qu'elle arrive tapée. Prized Amalgam a beaucoup été joué dans les decks de Dredge.
Elle est encore jouée de nos jours.
Elle est encore, je n'ai pas encore rencontré, mais j'ai pas de misère à le croire. C'est très bon là, dans des decks basés sur du graveyard.
Ce qui est drôle, c'est que c'est pas la couleur.
Ouais, la couleur, tu t'en fous d'être pas capable de la caster.
Ouais, c'est
ça. Même si tu joues pas de bleu, là, t'as pas besoin de. Parce que tu vas la mettre dans ton graveyard puis avoir rentré en jeu. Je mets Emrakul. Emrakul a été banni. Emrakul de Promised End, qui est lorsque Emrakul arrive sur Innistrad puis se met à tout détruire. C'est un légendaire Eldrazi 13-13 qui coûte 13 colorless.
Ça a pas de bon, ça.
Il coûte un de moins pour chaque types de cartes dans ton graveyard. On avait parlé tout à l'heure avec...
avec le tribal, mais ça n'a pas de bon sens.
Ouais, puis quand il arrive en jeu, tu prends le contrôle de l'autre joueur, c'est-à-dire que tu vas jouer ses cartes. Il y a Flying, Trample, puis Protection contre les instants, donc tu peux pas le counter avec un counter spell.
tu peux le counter avec un counter spell. Protection from instant marche, marche juste quand il est sur le battlefield.
Je me suis déjà stiné avec ça.
Oh, oui, c'est bon. moi, je me rappelle quand Miracle de Promising End est sorti en standard, tout le monde jouait ça parce qu'il y avait une carte dans Kaladesh qui permettait de le sortir au tour 4. Non, je pense qu'il avait été banni avant Kaladesh ou pas.
Il a été banni un petit peu après, si ma mémoire est bonne. Ouais. Mais
tout le monde jouait ça.
Tout le monde jouait ça. Puis la raison pourquoi ça a été banni, c'est parce que il y avait la clause de prendre le contrôle du tour de l'autre était juste une mécanique trop puissante pour Standard.
Oh, c'était juste
pas. Pourtant, il y a aussi un artefact qui fait ça, Mind Slayer, je pense.
Ouais, Mind Slayer, mais c'est pas.
On la voit plus en Standard. Hein. C'est pas
non.
Juste un petit mot sur Theros qui était sorti après Return to Ravnica. Dans Theros, c'était la mythologie grecque. C'est une carte qui était quand même beaucoup utilisée, puis je vous conseille en Commander, c'est Whip of Erebos pour un artefact légendaire, 2 colorless, 2 noirs. Il donne lifelink à toutes tes créatures.
C'est fort honesty, ça.
Tu peux payer 4 pour ramener une créature de ton graveyard en jeu avec Ace, t'attaques avec, fait qu'elle a lifelink, fait qu'elle te permet de regagner.
C'est fort honesty, ça.
C'est joué à...
Dans mon deck de zombies, j'étais tanné que ce soit Gary qui me fasse tout le temps gagner, fait que là, j'ai décidé de mettre deux fouettes de même à la place du Grey Merchant, t'offres tout le temps les mêmes affaires Fodel.
Khan of Tarkir, sur le plan de Tarkir, c'était le clan des Sultai, qui était un clan bleu, noir, vert, qui utilisait beaucoup le graveyard. Eux, ils avaient la mécanique Delve, c'est-à-dire que tu exiles les cartes de ton graveyard, puis ça te crée du mana colorless pour caster les cartes qui ont Delve.
Ah, c'est cool. Ça.
Par exemple, Dig Through Time, c'est 6 colorless, 2 bleus. Dans le fond, si tu enlèves 6 cartes de ton graveyard, elle te coûte juste 2. Ça permet de regarder les 7 premières cartes de ta librairie. Tu en choisis 2 que tu mets dans ta main. Tu mets le reste dans ta librairie.
Le gros zombie carte fiche épeurant. Hein,
carte
cool.
Bannie en moderne aussi.
Carte bannie en moderne aussi parce que trop fort. Soul Flayer qui est vraiment le fun. C'était un 4-4, 4 colorless, 2 noirs. Lui, il y a un coup de Delve aussi. Sauf que le twist qu'il ajoute, c'est que par exemple, si tu exiles une carte qui a First Strike de ton graveyard pour la caster, ton Soul Flayer, il va avoir First Strike.
Whoa!
Si t'exiles une carte qui a
Touch, Double Strike, tous les gros pouvoirs qu'on veut. Là.
Amonkhet était un set basé sur... ça c'est
les pharaons plus.
C'était basé sur l'Égypte ancienne, donc beaucoup de graveyard. Il y avait la mécanique Embalm. Il y avait plusieurs créatures qui avaient Embalm, c'est-à-dire dans toutes les couleurs. Embalm, c'est la créature dans le graveyard, tu payes son coup de Embalm, tu la ramènes en jeu, elle est un...
Momifié,
momie zombie blanche.
Et voilà.
Avec les mêmes pouvoirs qu'elle avait avant.
Des dieux trop forts.
Et tu avais bien sûr le Scarab God dans Amonkhet qui était 3 colorless, un bleu, un noir, qui était un dieu. Ce qui est intéressant de lui, c'est que tu payais 4, notamment un bleu et un noir, pour t'exiler une créature dans un graveyard et tu ramenais une copie de cette créature-là qui était un 4-4 zombie.
Ben oui, c'est ça, le plan de Nicole Bolas.
Ouais, c'est le plan où Nicole Bolas, où il prépare ses Eternals, qui est une armée de zombies 4-4. Un autre qui était très fort, c'était God Pharaoh Gift, 7 colorless, un artefact qui est...
c'est vraiment fort.
Au début de chacun de tes combat phases, tu prends une créature dans ton graveyard et tu la mets en jeu. C'est un 4-4 zombie. Alors, haste.
C'est ça.
C'est vraiment fort. Moi, j'aimais beaucoup dans le temps qu'il était en standard. Je l'utilise encore dans du casual. Ou
sinon, après ça, c'est les dinosaures, tranquillement.
Ouais, non, après ça, à Ixalan, il n'y avait pas vraiment de trucs qui fouillaient dans
Graveyard. De nouveaux pouvoirs de Graveyard.
Après ça, il faut arriver à Guilds of Ravnica, qui présentement domine le standard.
Avec Undergrowth, qui tient compte des créatures que tu as dans ton Graveyard.
Mais en fait, c'est ça qui est drôle, c'est pas tellement...
Puis il y a le Surveil.
C'est pas tellement ces mécaniques-là qui ont fait la différence.
C'est Arclight.
C'est Arclight Phoenix, qui est un Phoenix rouge, 3 colorless, 1 rouge, pour un 3-4 avec Haste, Flying. Dès que tu joues 3 Instant ou Sorcery, tu peux la ramener directement en jeu et attaquer. Dans le fond, si tu t'arranges pour l'avoir dans ton graveyard très tôt, comme Faithless Looting, que j'avais parlé plus tôt, tu payes un rouge, tu l'envoies dans ton graveyard, puis au tour 3, tu casses 3 spells qui coûtent 1, puis elle arrive en jeu. Présentement, c'est ce qui domine tout. Là, je pense qu'elle vaut comme 30$ maintenant.
Elle est rendue à peu près à 35 canadiens quand j'ai checké vendredi.
Aïe, aïe,
aïe. Ça se fait. C'est très utilisé en moderne.
Mais ça fait une couple de séries qui sortent des bons Phoenix aussi. Là. Il y a comme vraiment un deck de Phoenix à se faire tranquillement.
Ben, la carte, ce que je trouve vraiment drôle de Arc Light Phoenix, de la carte en tant que telle, c'est que c'est une carte que personne n'avait vu venir. Quand ça a été spoilé en pre-order, les prix étaient à 3-4$. C'était comme qui va être capable de mettre ça dans le graveyard, puis après ça jouer 3 instant sorcery, puis que ça soit encore dans le graveyard. Turns out, beaucoup de monde.
Puis la dernière carte, je veux juste mentionner, c'est ce qui a ramené Dredge en fait dans Modern et le standard. Vas-y, explique-nous Creeping Chill, on va voir si tu la connais par cœur.
Creeping Chill, le casting cost est irrelevant parce que tu vas jamais la caster anyways. C'est une carte noire que quand tu la mets de ta library dans ton graveyard, tu peux décider de l'exiler. Et que quand tu l'exiles, ça draine 3 points de vie à ton adversaire.
Ouais. Et toi, c'est ça. Tu gagnes 3.
Ça accélère beaucoup les stratégies de graveyard. Parce qu'avec le dredge, tu la mets directement dans le graveyard. Ça enlève 3, tu gagnes 3.
Bon, je me doutais qu'il y avait un petit fond après ça quand je l'ai poigné dans le draft dernièrement. François, un dernier mot sur le graveyard. Je pense qu'on arrive au bout.
Utilisez-le. Le plus possible.
C'est la bonne conclusion.
Très bien dit. Merci beaucoup, Jason. Merci beaucoup, Martin, à la console. Maxime Aymon, un plaisir. Merci bien gros. François, merci. Mon nom est Tommy. Je vous invite à partager, commenter, s'il vous plaît. Donnez-nous des sujets à parler. On enregistre une batch d'un coup. Fait que si vous nous envoyez une suggestion de sujet, ça se peut que ça prenne un temps avant qu'on en parle. Faut pas que vous le preniez personnel. Checkez ça aussi sur notre site. On est rendu avec des t-shirts. Merci beaucoup, Production Podcast. Donc, mon nom est Tommy et je vous souhaite un minimum de Manascrew.
Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.